La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Et au menu de notre club aujourd'hui, l'aventure de la conquête spatiale de l'Arctique et du blues à Brest et une variation sur les prunes. Et je vous présente mes invités dans un instant. Héloïse Rambert, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui à la Une de la Science, on va partir dans les profondeurs marines, prendre un peu de fraîcheur.
Oui, on va parler de la mission Gombessa 5, planète Méditerranée, qui démarre le 1er juillet et qui va permettre d'explorer les profondeurs de la mer Méditerranée. Et vous allez voir Mathieu, les conditions sont impressionnantes.
Et c'est Frédéric Milano qui réalise aujourd'hui cette émission qui a été préparée par Irène Menahem et Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue les invités de ce club, Marie Treps, Serge Brunier, Laurent Chauveau et Sophie Becherel. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Et bienvenue. Serge Brunier, vous êtes avec nous pour nous présenter ce livre, La conquête spatiale de A à Z. Vous êtes journaliste scientifique, photographe de Voie lactée. Et donc ce livre qui arrive chez Gallimard, un livre qui va faire drôlement plaisir à Buzz Aldrin, parce que grâce à la magie de l'orthographe, c'est lui qui arrive avant Neil Armstrong dans votre classement. Exactement. C'est même lui qui ouvre le livre.
Oui. Enfin, c'est une histoire un peu triste, hein, quelque part, puisque Aldrin s'est senti obligé de changer de prénom quand il était jeune, tellement en fait il avait mal vécu ce voyage vers la Lune, hein, qui a été en fait une forme de traumatisme pour lui.
Ouais, alors on ne parle pas que du premier pas sur la Lune évidemment dans ce livre. Comment vous avez fait le choix d'ailleurs, vous, des thématiques, des entrées, alors, parce que la conquête spatiale c'est un vaste domaine quand même.
Alors, on est entre nous, je peux vous dire
oui,
la vérité.
Oui, on est seulement là.
Alors, j'ai simplement pris l'alphabet entier de A à Z, oui, et j'ai mis des mots au fur et à mesure, bon, de l'écriture en face. Oui. Pour remplir les 26 cases.
Si donc, ce qui vous inspirait aussi, peut-être ce qui remontait à la surface de
votre
mémoire.
Oui, puis il y avait un côté, absolument, il y avait un côté poupée russe. C'est-à-dire que quand je prenais un thème, je me disais, ah oui, ça c'est bien, et puis je le déclinais de lettre en lettre, en fait.
Voilà. Donc, c'est un livre qui sort chez Gallimard, et on en parle avec vous, Serge Brunier, dans un instant. Sophie Becherel, votre coup de cœur, Sophie, cette semaine.
Pour Arctic Blues, une exposition qui marie art et science et qui démarra demain à Brest. J'ai proposé à Laurent Chauveau, chercheur au CNRS, dans le laboratoire Sciences de l'environnement marin, et qui est un spécialiste de biologie sous-marine, de venir nous en parler, parce que depuis 7 ans, il a monté une résidence d'artiste. Et cette exposition, c'est la restitution de ce que tous ces artistes sont venus faire, photographes, vidéastes, musiciens, en leur proposant des résidences sur votre terrain d'étude, c'est-à-dire les pôles. Qu'est-ce que vous attendiez de ces artistes ?
On attendait d'abord assez intuitivement une capacité que les scientifiques ou que mon groupe n'avait pas, ou du moins je vais parler à la première personne du singulier, que des aptitudes que je n'avais pas, c'est-à-dire exprimer des émotions et des sentiments, rendre sensibles et témoigner d'une beauté extrême, d'une poésie absolue et d'une esthétique rare, celle des pôles, celle des bruits sous la glace et de ces animaux qui ont non seulement une biodiversité assez extraordinaire, des formes assez extraordinaires et surtout un agencement assez extraordinaire. Quand on plonge sous la glace, on découvre et on se met finalement mal à l'aise parce qu'on n'est pas capable de restituer, comme le ferait, je vous imagine, quelqu'un qui est sur la Lune ou qui est sur Mars, de restituer une autre planète, une autre atmosphère, une autre poésie.
Mais enfin, les scientifiques ont des émotions quand même, Laurent Chauveau.
Oui,
Chauveau,
il est capable de l'écrire.
Vous êtes un être humain avec un petit cœur qui bat.
Oui, ben justement, il est capable de l'écrire correctement, et capable d'en témoigner correctement et de mettre du sensible là où on a l'habitude, où on a été dressé à mettre des graphiques et des chiffres. Il y a quand même une forme de respect vis-à-vis de l'art.
Ouais. Alors, on verra qu'il y a un lien également avec l'invité de la Une de la Science dans un instant, Laurent Balesta, parce que vous avez plongé ensemble, justement.
Oui, on a partagé une partie de la base du Mont-d'Urville.
Marie Treps, vous êtes également avec nous, linguiste et sémiologue, et vous publiez un livre sur la prune, ça s'appelle La Prune, tout simplement, très sobrement, aux éditions Tohu Bohu. Mmh. Et ce sont vos racines lorraines et votre amour de la tarte aux mirabelles qui vous a fait écrire ce livre, alors?
Ah,
qui
oui,
vous
ont fait écrire ce livre? Bah, j'ai initié une collection Fabuleux fruits destinés aux fruits, donc je n'avais que l'embarras du choix. Ouais. J'ai choisi la prune, effectivement, parce que derrière, il y a la couette et la mirabelle.
Ouais. Et il y a votre œil, surtout de linguiste aussi, évidemment.
Mon œil de linguiste et de sémiologue, c'est-à-dire que derrière un fruit banal, en somme, il y a un univers.
Ouais. Et on donnera aux auditeurs le mystère de l'affaire du pruneau, hein, en particulier, que vous évoquez abondamment.
La bataille du pruneau.
Voilà, on se retrouve dans un instant pour cultiver, fêter et déguster la prune. Et puis bien sûr, pour évoquer les autres sujets avec les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Le son envoûtant des fonds marins, aujourd'hui à la Une de la Science, Héloïse Rambert, pour parler de la prochaine expédition Gombessa 5.
Oui Mathieu, l'expédition a nécessité 2 ans de préparation. Elle est maintenant prête à être lancée le 1er juillet prochain pour 28 jours. Et c'est une première mondiale. Imaginez, 4 plongeurs vont cohabiter dans un espace confiné pendant ces 4 semaines pour explorer sans limite les grandes profondeurs de la Méditerranée jusqu'à 120 mètres. Mais je vais tout de suite laisser la parole à Laurent Balesta qui est en direct depuis les locaux de France Bleu à Montpellier et qui va diriger cette mission. Bonjour à vous.
Bonjour Héloïse, bonjour Mathieu et bonjour Laurent Chauveau.
Bonjour.
Tout le monde se connaît. Vous êtes photographe, biologiste et chef des expéditions Gombessa. Alors expliquez-nous un peu, parce que c'est un peu technique, les conditions de cette expédition. Comment vous allez vivre tous les 4 ensemble pendant ce mois de juillet ?
Eh ben, on va vivre enfermé.
Super.
C'est ça la contrainte, la grande contrainte, c'est ça, enfermé dans 5 mètres carrés d'acier à 4. Donc c'est vraiment vraiment petit. C'est plus petit qu'un wagon lit. Si les gens se souviennent de ce qu'étaient les wagons lits, voilà. Ouais. Et il va falloir rester 4 semaines là-dedans.
Mais vous entendez
cette
bien,
contrainte
on
là. Ouais, mais vous savez, oui, c'est mes amis. Mais moi, j'ai une définition des amis très précise. Les amis, c'est des gens que l'on connaît très très bien et que l'on aime quand même. Et voilà. Et donc, j'espère que ça va tenir la route, parce que cette définition-là, après ces 4 semaines. Mais voilà. Mais alors ça, c'est la contrainte. Je le reconnais que ça me fait peur, hein, un petit peu, hein. C'est angoissant, cette promiscuité, cet enfermement. Mais c'est pour un privilège incroyable. C'est-à-dire, pouvoir explorer les grandes profondeurs, enfin, sans limite de temps. Ça fait 20 ans que je fais de la plongée profonde. Mais chaque fois que j'ai le privilège de passer 20 ou 30 minutes à très grande profondeur, je sais qu'ensuite je dois le payer de 4 à 5 heures de remontée pénible. Et là, non, là, on va passer 4 ou 5 heures au fond de la mer, peut-être plusieurs fois par jour. Et puis, quand c'est le moment, quand on a trop froid, quand on en a assez, au lieu d'avoir ces longs et interminables paliers de décompression, eh bien, on prend simplement une sorte d'ascenseur, un ascenseur pressurisé, bien sûr, qui nous ramène à notre station batiale. J'ai pas dit station spatiale, hein, station batiale, qui nous ramène à la surface, toujours pressurisé. C'est pour ça qu'on peut se permettre de remonter aussi vite. Et on retourne dans notre cellule, notre module de vie de 5 mètres carrés pour manger, dormir et repartir.
Et vous allez respirer un air un peu spécial.
Ah ben sur le coup c'est pas de l'air, c'est un mélange. L'air c'est un mélange azote oxygène. Là c'est un mélange d'hélium et d'oxygène. En fait c'est quasiment que de l'hélium pur, plus de 95% d'hélium et une petite touche d'oxygène quand même parce que c'est nécessaire à la vie. Et voilà, on est obligé de respirer de l'hélium parce qu'à ces profondeurs là il y aurait 2 problèmes. D'abord l'ivresse des profondeurs qui ferait que mes photos seraient floues et nos études scientifiques pas très sérieuses. Et aussi parce que l'hélium est un gaz léger et qu'à 120 mètres la densité est 13 fois supérieure à celle de la surface et que nos pauvres cages thoraciques n'ont pas les muscles pour ventiler un gaz visqueux. Donc avec de l'hélium qui est très léger, on arrive à avoir une ventilation correcte même à ces hautes pressions.
Vous vous imposez des conditions extrêmes, on imagine que le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi explorer si profond et si longtemps ?
Ben parce que imaginez un botaniste à qui on autoriserait simplement des visites de 10 ou 20 minutes par jour dans sa forêt préférée. Voilà, moi ça fait, je suis le plus grand des passionnés frustrés. Enfin non, il doit y en avoir d'autres. Mais c'est l'histoire de ma vie, ça, d'avoir une passion que je ne peux vivre que 20 minutes par jour parce qu'ensuite c'est des paliers de décompression interminables. Donc l'intérêt là, c'est de pouvoir enfin être affranchi du temps. Le temps va plus se compter en minutes, il va se compter en heures, et ça va tout changer à nos observations. Ça, c'est évident, puisque déjà avec les poignées de minutes qu'on passait au fond, on faisait des découvertes, on avait des émotions incroyables. C'est peut-être pas pour rien que j'ai été invité plein de fois par Mathieu, c'est que j'avais des choses à dire malgré ces plongées très courtes. Et là, enfin, on va avoir des heures et des heures devant nous, alors ça peut vraiment tout changer.
Alors qu'est-ce que vous allez regarder spécifiquement si profond ?
on va regarder ce que j'ai envie d'appeler les récifs coralliens de la Méditerranée. Alors, nous autres scientifiques, on appelle ça très précisément les récifs coralligènes. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire des écosystèmes qui s'auto-construisent par les êtres vivants eux-mêmes, comme un récif corallien sous les tropiques. La différence, elle est sur deux niveaux. D'abord, les récifs coralliens des tropiques, c'est tout près de la surface, alors que les récifs coralligènes, ça commence à 60 mètres et ça se termine vers 120 mètres. C'est là qu'ils se trouvent. Et puis, finalement, les récifs coralliens, c'est que des coraux qui construisent le récif à plus de 99%. Les récifs coralligènes, c'est une plus grande diversité d'organismes. Bien sûr, un petit peu des coraux, mais aussi des algues pétrifiées, des algues calcaires violettes très, très foliacées, très belles. C'est aussi des mollusques avec leurs coquilles, c'est des vers marins avec leurs tubes, c'est des éponges calcaires. Enfin, c'est un panel d'organismes constructeurs avec des organismes évidemment destructeurs à côté, c'est-à-dire que cette roche, en même temps qu'elle est construite, elle est aussi érodée, et on arrive du coup à un système extrêmement complexe, chaotique, alvéolaire, qui est un refuge idéal pour une grande quantité d'animaux. Voilà ce qui fait la richesse incroyable de ces écosystèmes profonds.
On imagine que vous allez ramener des super belles images. Est-ce que nous, on peut profiter de la mission pendant que vous y êtes? Vous allez communiquer avec nous?
Oui, on va tâcher de poster régulièrement, le plus souvent possible, sans doute tous les jours, des petites vidéos, des photos, tout ça, sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, YouTube, tous ces réseaux-là.
Et mais puis, vous aurez surtout, du réseau surtout, sous l'eau. Il y aura du réseau sous l'eau.
Alors non, mais notre station spatiale, elle revient à la surface systématiquement. Et finalement, il y a un paradoxe. On est à 4 jours de la surface, puisqu'il nous faudra 4 jours de décompression pour sortir à la fin de la mission. Donc on est à 4 jours, mais en même temps on est à 4 cm d'acier seulement, ouais, qui nous sépare de nos camarades qui nous surveillent en surface. Donc non, il y a un peu de réseau, on pourra communiquer. Et puis il y aura surtout un film de 90 minutes sur Arte l'année prochaine.
Laurent Chauveau, il est un peu givré, votre copain Balesta.
Non, là, clairement, ah, il est hors norme. Oui. Clairement, le groupe est hors norme parce que ses collègues sont à peu près de la même trempe. Évidemment, ouais, il est leader, il est moteur, mais ouais, il fait des choses assez exceptionnelles, évidemment. Ouais.
Donc vous allez remonter un petit peu la surface quand même, hein.
Ah oui, on va être isolé dans cette station, mais paradoxalement en surface. C'est une sorte d'ascenseur qui nous amène au fond tous les jours.
D'accord, on essaie de le visualiser pour bien imaginer comment vous
allez vivre. On fera plein de dessins, on va faire des petits dessins animés.
Bon, et on va regarder les photos. Il y a un site, Laurent Balesta, pour suivre vos aventures?
Alors il y a les pages Facebook et YouTube des expéditions Gombessa, mm-hmm, et puis il y a aussi ma page officielle, la mienne, où on peut retrouver tout ça. Oui.
Eh bien, on met tout ça en lien sur franceinter.fr. Bon ben bon courage, et puis on attend de vous retrouver fin juillet pour voir dans quel état vous êtes aussi à l'issue de cette expédition. Merci Laurent Balesta.
Merci
Balesta. À très bientôt.
Merci
Louise.
Merci à vous.
À très bientôt. Dans un instant, c'est le club.
Comment on fait pour sortir? Comment on fait pour descendre? Ça fait des mois que ça brûle, bientôt y'aura que des cendres. Si c'est ça la finalité, la fin du parcours, quelque chose a glissé. Comment on peut s'en sortir quand on se fait trop descendre? C'est au moment de partir qu'on a le temps de s'attendre. Si c'est si compliqué, si on peut plus rien comprendre, quelque chose doit glisser. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. Fais le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. Défait, défait. Défait, défait. Hey, les années nous semblent vides, au fond tous on se ressemble. Si on sait s'écouter, c'est qu'on n'a pas su s'entendre quand on a dû glisser. Pourquoi
Pourquoi toujours vouloir fuir ce qu'on pourrait pas comprendre? Si tout tenait à un fil, il suffirait de le tendre. Si on voit plus l'avenir aussi fort qu'on le prétende, quelque chose va glisser. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On verra bien quelque part se retrouver par hasard. Défait, défait. On verra bien quelque part se retrouver par hasard. Défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait.
Défait, c'était Julien Granel.
La tête au carré, le club.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Voilà, c'est pas la tarte au Mirabelle, c'est la tarte à la crème avec le premier pas, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, Serge Baudier. Mais bon, c'est quand même une bonne introduction pour parler de la conquête spatiale. Hein. C'est le livre que vous publiez chez Gallimard de A à Z. Et puis, on va parler également des prunes dans ce club avec Marie Treps. Et puis, d'une expo sur l'Arctique à Brest qui commence demain. Serge Brunier, donc, on commence avec vous, journaliste scientifique pour Science et Vie, photographe. Hein, je disais tout à l'heure photographe de la Voie Lactée parce que vous avez réalisé une photo qui reste dans l'histoire. Hein, je crois vraiment, on peut le dire, de ce qu'on a pu voir de la Voie Lactée, une photo qui en fait est composée de plusieurs photos. Hein.
Oui, 250 si je me souviens bien. Bah, c'est en fait une photo du ciel entier.
Oui, c'est ça.
Qui est énormément utilisée, ça c'est un peu ma petite fierté, on va dire, par les instituts scientifiques en fait.
Ouais.
Qui les utilisent pour promouvoir leur télescope, leur projet de satellite, et ça me fait très très plaisir.
On en avait parlé à l'époque. Ouais. C'est en quelle année? Ça fait un petit moment déjà.
2009.
Et vous aviez beaucoup bourlingué hein, pour ça, parce qu'il fallait aller dans plusieurs pays.
Alors j'avais passé plusieurs mois dans le désert d'Atacama au Chili, pour la partie sud, et puis la partie nord avait été faite depuis les Canaries, l'île de Tenerife et La Palma,
ouais.
Et une petite partie en France.
Voilà, donc si on veut avoir une très belle photo du ciel, on tape photo du ciel Serge Brunier et on aura de quoi faire, évidemment. Alors, cette actualité avec ce livre, La conquête spatiale de A à Z, qu'est-ce qu'il faut entendre d'ailleurs par cette expression conquête spatiale? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est la conquête humaine? C'est celle des robots?
Le titre est voulu, parce que actuellement, enfin, il est de bon ton en fait de parler d'exploration.
Ouais.
Et en fait, quand on regarde les choses avec un peu de recul, on se rend compte que non, ce n'est pas de l'exploration, c'est de la conquête.
Ouais.
C'est-à-dire que les financements, la plupart des financements qui sont investis dans cette exploration, entre guillemets, en réalité, c'est des financements, on va dire, politiques. C'est-à-dire, actuellement, le retour sur la Lune dont on parle tant, soit du côté américain, soit du côté chinois en particulier, c'est un processus politique et le financement qui va avec, c'est un financement de bataille géopolitique.
Oui, c'est ça.
Et de conquête.
C'est ça, parce que vous allez plus loin, vous dites que c'est même la guerre qui est au cœur finalement de la conquête spatiale, hein, et dès le début finalement. Hein.
Alors, on parle beaucoup en 2019 du cinquantenaire du premier pas de l'homme sur la Lune,
oui.
le programme Apollo. Mais il y a un autre anniversaire qu'on a oublié, c'est le centenaire. Et vous savez de quoi ? Le centenaire du traité de Versailles.
Donc après la Première Guerre mondiale.
Première Guerre mondiale, 1919, le conflit évidemment mondial. Le traité de Versailles interdit à l'Allemagne d'avoir une artillerie lourde et des chars d'assaut, hein, pour faire simple. Qu'est-ce que font les militaires allemands? Ils réfléchissent aux moyens de détourner le traité de Versailles. Dans les années 30, ils s'intéressent. Pendant la République de Weimar, en fait, il s'intéresse aux activités d'un petit club d'amateurs un peu loufoque, hein, allemand, une centaine de personnes, dont un jeune allemand rêveur qui s'appelle Werner von Braun. Et ces gens-là s'amusent le week-end à envoyer les premières fusées vers l'espace. Et elles montent jusqu'à 30 mètres, 40 mètres de hauteur. Donc, c'est vraiment un jeu technique. Mais ces gens-là rêvent déjà d'aller sur la planète Mars. Ce sont des fous. Mais les militaires les prennent au sérieux. Et pour faire simple, ils embauchent les meilleurs ingénieurs. Ils embauchent Wernher von Braun. Et Wernher von Braun, comme tout le monde le sait, va devenir, ou presque, va devenir l'ingénieur préféré de la nomenclature nazie et va surtout développer la fameuse fusée V2, c'est-à-dire le premier missile, mais aussi la première fusée.
Donc ça a été un contournement du traité de Versailles qui a favorisé justement cette exploration ou cette conquête spatiale. Et vous faites, on pourrait même faire un lien grossier finalement entre le traité de Versailles et Apollo 11, hein, c'est
mais,
ça hein.
Mais on peut.
Le premier pas sur la Lune, c'est directement...
Mathieu Vidard, vous pouvez prendre les choses
Brunier.
Comme vous voulez, que ce soit du côté américain ou soviétique, la conquête de la Lune et la conquête de l'espace vient du missile V2 de von Braun, puisque une centaine de chercheurs allemands ont été récupérés par les Américains d'un côté pour aller lancer des V2 depuis White Sands au Nouveau-Mexique, et côté russe, pareil, une centaine de personnes ont aidé Korolev à créer le Soyouz.
Marie Treps.
Symboliquement, on plante un drapeau, n'est-ce pas?
Et alors, bon, bien sûr, moi, c'est un peu ma... Oui, vous avez raison, bien sûr. Qu'est-ce qu'on retient du programme Apollo?
Les images, oui.
C'est un astronaute, alors, qui est venu au nom de l'humanité entière. Mm-hmm. Mais les 6 missions Apollo qui se sont posées sur la Lune, la première chose qu'elles ont faite, à côté du LEM, cet homme en scaphandre qui est sur la Lune, qu'est-ce qu'il a?
Ouais.
Un drapeau américain.
Ouais, absolument. Est-ce que les Américains vont replanter un drapeau d'ailleurs bientôt sur la Lune ou pas? Parce qu'on a beaucoup entendu Trump et ses exigences vis-à-vis de la NASA. Il a pris de court tout le monde d'ailleurs, hein, mais il l'a fait à la Trump, bien sûr.
Ouais.
Ils vont tenir ou pas les ingénieurs de la NASA?
Alors là, je vais prendre un pari devant nos millions d'auditeurs. Là, si vous me demandez si le programme Artemis va poser des femmes, puisque le premier pas, ce sera une astronaute féminine. Le premier pas en 2024 sur la Lune, alors je vous réponds tranquillement, non.
C'est vrai?
Non, ce n'est pas possible.
Vous connaissez mieux la réponse que Donald Trump, alors?
Je le crains, oui.
Pourquoi c'est pas possible?
C'est pas possible parce que le programme Apollo, il y a 50 ans, c'est une singularité de l'épopée humaine, littéralement. Quand on refait les comptes aujourd'hui, il y a un Américain qui vient de refaire les comptes, il a calculé qu'on a investi en dollars d'aujourd'hui à peu près 200 milliards de dollars pour aller sur la Lune, donc dans les années 60. S'il fallait remettre la même somme en fonction du PIB actuel des États-Unis, écoutez-moi bien, il faudrait aux Américains 700 milliards de dollars
pour
aller sur la Lune. Ouais. Alors vous allez me dire, on a fait des progrès depuis 50 ans. C'est vrai. Donc, ce sera plus facile. Mais vous savez quoi? On n'a jamais construit une fusée aussi puissante que Saturn V en 50 ans. On n'a jamais refait un moteur comme le F1 qui est capable, avec seulement 5 moteurs, de soulever cette fusée de 3000 tonnes. C'était un exploit technique absolument extraordinaire. Vous imaginez ce moteur? Il était capable seul pratiquement de soulever une fusée Ariane. C'était incroyable.
Ouais. Et alors Serge Brunier, SpaceX, Elon Musk, là tous ces nouveaux acteurs finalement aussi de la conquête spatiale, ils ont évidemment très envie de faire parler d'eux, sur Mars en particulier. Mais vous dites que c'est même pas très rentable aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'on licencie aussi en masse.
Alors Elon Musk, il a un succès évidemment extraordinaire avec sa Falcon, hein, qui marche du feu de Dieu, j'ai envie de dire. Mais il y a un paradoxe, si vous voulez. Sa fameuse Falcon Heavy, donc la plus puissante de ses fusées actuelles, en fait, elle n'a pas de clients. C'est-à-dire que pour l'instant, il finance ses tirs de cette fusée géante pratiquement à fond perdu.
Ouais.
Alors, en fait, il parie c'est un peu comme sa marque Tesla, en fait, hein. Il parie perpétuellement sur l'avenir. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Mais dans tous les cas, aucune de ces technologies ne nous permettra de poser le pied d'une femme sur la Lune en 2024.
Bon, on va appeler la Maison Blanche pour qu'elle écoute cet extrait de La Tête au Carré aujourd'hui. Alors, il y a plein de noms, évidemment. Valentina Tereshkova, la première femme aussi, hein, parce qu'on parle toujours des premiers hommes. Et évidemment, il y a Gagarine.
61.
Ouais, alors, le terme russe, d'ailleurs, pour parler d'un astronaute, un gagarote, c'est ça?
Gaganote, c'est...
Un gaganote, oui, pardon.
Gaganote, si je me souviens bien, c'est un astronaute
russe?
Indien.
Ah, indien.
Le russe, c'est le cosmonaute, et le chinois, de mémoire, ça doit être le taïkonaute, et l'européen, le spationaute.
Mais c'est un lien
complètement idiot, hein, on est d'accord.
Mais c'est un lien avec Gagarine ou pas du tout, le gagonaute?
Non, gaganaute, ne me demandez pas, c'est un terme, c'est une divinité indienne.
Merci beaucoup, Sophie Becherel, qui, grâce au yoga, arrive à nous donner ses sources.
On retrouve la symbolique, et c'est tellement important.
Mais oui, on est de nouveau dans la conquête spatiale.
Qui est John Young, Serge Brunier?
Mon héros secret.
Ben oui, parce que vous dites, c'est un parcours inouï, un homme qui est un extraterrestre. Et on ne le connaît pas du tout. Hein.
C'est mon héros.
Ouais.
C'est le seul astronaute pour lequel j'ai une admiration sans borne. D'une part parce qu'il est assez méconnu du grand public.
Ouais.
Et ensuite parce qu'il a eu une vie absolument inouïe et bien supérieure à celle de Gagarine ou Neil Armstrong.
Ouais.
C'est un homme qui, dans les années 60, je vous le fais un peu court, va deux fois dans l'espace. À bord du vaisseau Gemini. Donc, en gros, 50 ans avant Thomas Pesquet, il va déjà dans l'espace et il tourne autour de la Terre. Il repart dans l'espace pour aller vers la Lune. Mais il ne va pas se poser sur la Lune. Il fait le tour de la Lune seulement. C'est la mission Apollo 10.
Ouais. Le plus frustrant de la Terre, quand même.
C'est le truc le plus frustrant de la Terre. Mais pour l'immense majorité des astronautes, ce serait déjà un achèvement inouï. Ouais. Donc, il fait tellement ses preuves avec un sang-froid, un courage absolument extraordinaire, que la NASA lui dit, bon, ben, vous repartez sur la Lune.
Mmh.
2 ans plus tard, Monsieur Young se retrouve à marcher sur la Lune. Donc, il va d'abord une première fois tourner autour. Ensuite, il va marcher sur la Lune. Il revient sur Terre, vous allez me dire, comme tous les autres, il prend sa retraite.
Mmh.
Ben non. Il reste à la NASA et en 81, c'est lui qui pilote la première navette spatiale. Ça lui suffit pas. Il repart pour une autre mission à bord de la navette spatiale, 6 vols en tout, donc une vie de science-fiction.
Ouais.
Et si malheureusement il n'y avait pas eu le fameux accident de la navette Challenger en 85, il serait reparti vers l'espace une 7e fois. Mmh. C'est un homme absolument extraordinaire.
Voilà, donc Monsieur Young, on retient son nom parce que c'est votre héros absolu.
Voilà.
Alors, ce qui est très drôle, parce que moi je vous suis évidemment sur les réseaux sociaux aussi, parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, Serge Brunier, et vous dites parfois tout le mal que vous pensez aussi de la conquête humaine, hein, de l'espace, en disant
de l'activité humaine
dans
l'espace.
En disant que ça sert à rien, ça coûte trop cher, qu'on a des machines qui parlent. Voilà.
Rigoureusement. Rien.
Voilà. Et ce qui est très drôle, c'est la sobriété dans certains portraits que vous dressez dans ce livre.
Ça se voit,
quand on vous connaît, on se dit il a dû se retenir terriblement quand même. Hein. Vous êtes super critique. Hein. Toutes les stars d'ailleurs de l'espace aujourd'hui, vous leur en envoyez quand même de temps en temps des...
Écoutez, au-delà du programme Apollo, qui pour moi est un achèvement humain absolument inouï, mais c'est quoi la mission Apollo ? C'est Tenzing Norgay et Sir Hillary qui vont au sommet de l'Everest.
Oui.
C'est-à-dire, c'est un acte humain courageux et extraordinaire. Mais c'est qui, au fond, l'Everest ? C'est plutôt Wegener qui nous a expliqué la dérive des continents. Ce sont des générations de géologues qui nous ont expliqué pourquoi l'Himalaya monte et que l'Inde pousse. Ce sont ces gens qui nous ont expliqué que la mousson bute contre l'Himalaya. Enfin, toutes ces choses que les géologues et autres nous ont appris. L'homme dans l'espace est un exploit sportif, hein, comme disait le regretté Hubert Curien, ça ne sert à rien. Moi, je trouve, à titre personnel, hein, bien sûr, qu'investir plus de 100 milliards de dollars dans une station spatiale internationale, dont la seule chose dont on se rappelle, c'est les selfies que Thomas Pesquet fait dans l'espace, c'est un peu cher payé, on va dire.
Bien, et bien, en tout cas, son nom figure hein, dans ce livre, Thomas Pesquet, mais pas seulement. Et il y a Zuma aussi, c'est le dernier mot de cet abécédaire.
Avec Zorglub.
Voilà, c'est le satellite du Pentagone le plus médiatisé des satellites espions. Et il y a plein de choses passionnantes dans cet ouvrage qui sort chez Gallimard. C'est la conquête spatiale de A à Z. Vous restez avec nous, Serge Brunier, dans un instant. On part avec un autre aventurier aussi à sa façon à Brest. Borderline, c'était Tame Impala.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Sophie Bécherel, avec le coup de cœur de la semaine.
Nous allons donc plonger. Hein, tout à l'heure, on était avec Laurent Balesta sur les récifs coralligènes de Méditerranée. Laurent Chauveau, chercheur au CNRS, votre terrain de jeu, vous, ce sont les eaux froides, Antarctique-Arctique, puisque c'est votre spécialité, hein, cette biodiversité sous-marine. Et notamment, vous travaillez sur les coquilles Saint-Jacques. Dites-nous rapidement, parce qu'on en parle dans l'exposition, à quoi vous servent les coquilles Saint-Jacques? De quoi sont-elles le témoin aujourd'hui dans cet environnement polaire qui change très vite?
Voilà, cette expo, dans sa partie scientifique, parce que c'est une expo qui mélange art et science, et de la production artistique et de la production scientifique, sur la partie scientifique, une période qui couvre les 30 dernières années. Et il se trouve que, il y a 30 ans, on nous posait la question à Brest, à l'Université de Bretagne Occidentale, est-ce que on verra encore partir des marins pêcheurs depuis le centre-ville, depuis le port de Brest, pêcher les coquilles Saint-Jacques dans 20 ans? Ouais, puisque cette activité de pêche, des cirés jaunes partant depuis le quai jusque le large de la rade de Brest, faisait partie complètement du patrimoine culturel de cette ville. Et travaillant sur le cycle vital de la coquille Saint-Jacques, on s'est aperçu de façon complètement fortuite qu'une coquille Saint-Jacques, eh bien, ça fabriquait des stries comme, ou des cernes comme un arbre, et qu'entre deux cernes hivernales, il était possible de voir des stries journalières. Et une coquille Saint-Jacques, finalement, marque le temps au rythme du jour. Et je vous fais un raccourci de 10 ans de recherche pour découvrir que la composition isotopique de ce squelette calcaire retrace la température de l'eau de mer à une échelle journalière, et qu'on est donc en train d'expliquer qu'une coquille Saint-Jacques, c'est pas que le plat festif des Français à Noël.
C'est une mémoire.
C'est aussi, une archive environnementale, deux, un thermomètre enregistreur qui a enregistré également des contaminations en Bretagne, notamment liées à des élevages porcins ou à quelques modifications de la production primaire du phytoplancton. On trace très très bien l'évolution du phytoplancton en Bretagne. On trace très très bien depuis une publication qui date d'une semaine, le fait qu'on vous injecte pendant une IRM un contrastant qu'est le gadolinium qui se retrouve dans les coquilles Saint-Jacques à 40 mètres de fond, et l'histoire de ces injections et du développement des IRM est mémorisée dans les coquilles Saint-Jacques. Voilà, un ensemble, on peut vous calculer la vitesse de rotation de la Terre avec la croissance d'une coquille Saint-Jacques. Plein d'infos, c'est une archive environnementale assez complète. La température, la quantité d'oxygène qu'il y a dans l'eau de mer, les contaminants, les ricas qui déversent du pétrole, tout ça se voit et est mouchardé, si vous voulez, avec une coquille
Saint-Jacques. Avec tous ses yeux, parce qu'elle en a beaucoup.
Avec tous ses yeux bleus et avec en plus tout un symbole. Alors on va pouvoir parler de ça, sur les symboles, comment on a utilisé la coquille Saint-Jacques comme un réel symbole pour trouver des financements, mais au-delà de ça, aller sortir de la rade de Brest, travailler sur la façade atlantique européenne, du Maroc jusqu'à la Norvège, puis découvrir qu'on pouvait le faire avec des pétoncles à Nouméa, à l'île de la Réunion ou au large des côtes chiliennes, et finalement se dire si nous on peut le faire en Bretagne, si on peut le faire sur la façade atlantique, sous les tropiques, on peut le faire en Antarctique. Là, il y a un pétoncle qui est circumpolaire, et nous sommes partis il y a un peu plus de 10 ans, à plusieurs reprises pendant les périodes longues de 3-4 mois, plongées sous la glace de l'Antarctique pour étudier les pétoncles polaire.
Et donc ça a été un choc, pas seulement de la connaissance scientifique, ça a été un choc émotionnel. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est pour ça que vous avez demandé à des artistes finalement d'être la représentation ou l'expression de cette émotion, vous estimant incapable de le faire. Qu'est-ce que vous avez demandé à ces artistes que vous avez accueillis en résidence, que vous accueillez depuis 7 ans? Quel est le cahier des charges que vous leur imposez?
Il y a une carte blanche. On essaye d'éviter la prétention. Il n'y a pas d'avis donné par les scientifiques sur une nature de production artistique. On a commencé assez simplement pour persuader et le CNRS et l'université avec de la photographie. Il était assez intuitif puisque dans notre équipe, il y avait Erwan Amis qui était plongeur du CNRS faisant de la photographie, d'avoir un pendant avec une approche en surface, cette fois-ci pas sous l'eau, mais en surface, avec un regard, on dit assez classiquement, un regard croisé sur des écosystèmes en péril. On parle de l'Arctique, on est parti avec Jean Gomy, on s'est approché pour ça.
Grand reporter
qui est aujourd'hui académicien. Jean Gomy est venu avec nous puisque il a exposé quelques clichés qui avaient été pris sur des bateaux de pêche à pont ouvert dans un livre qui s'appelle Pleine mer, édité par Xavier Barral. Et en regardant ces images à Brest, vous voyez, au sein de la salle du Quartz, il était évident que les photographies de Jean Gomy devait nous permettre de ramener des informations, ramener des témoignages, mettre de l'émotion sur ce que l'on voyait en Arctique. Et je me suis approché d'Emmanuel Asquette, qui aujourd'hui aujourd'hui dirige le commissariat de cette exposition et dans mon groupe dirige complètement les relations entre art et science. Et Emmanuel Asquette nous a proposé de travailler avec Jean Gomy et ça s'est passé assez naturellement. Et l'idée s'est imposée assez vite de faire dans la longueur. Ça vous surprend peut-être cette idée de résidence d'artiste polaire pendant 7 ans et on est parti pour encore 2-3 ans. Je pense que c'était ça la bonne idée d'Emmanuel Asquette au début de ce mariage à Ré-Science, c'est de prendre le temps.
Alors, il y a des photographes, des vidéastes et puis des musiciens qui ont été invités. On va écouter un extrait parce que dans l'exposition, il y a un dôme qui rappelle énormément la base du pôle sud américaine dans laquelle il y a cet environnement sonore.
Il y a rien d'organisme marin qui émette des sons.
Alors, ces trois musiciens de musique électro, ils ont démarré leur résidence il y a 1 an et ça, c'est ce qu'ils ont restitué. Quel est le lien avec vous, les scientifiques, dans ce qu'on entend ?
Alors, c'est une excellente question et vraiment quelque chose de jubilatoire, ce mariage avec la musique, puisque l'écologie, et une nouvelle fois de façon fortuite, nous a emmenés vers les sciences de l'ingénieur et on a commencé à instrumenter des coquilles Saint-Jacques avec des accéléromètres, les mêmes qui sont dans votre téléphone et qui permettent de mesurer les mouvements d'une coquille Saint-Jacques sous la banquise quand on n'est pas là. Et donc, on a développé des mini-capteurs capables de mesurer ces mouvements. Et puis, un jour, on s'est dit, c'est une bonne idée, mais c'est très intrusif. Est-ce qu'on est capable d'entendre une coquille Saint-Jacques bouger ? Et on a commencé à mettre, grâce aux écoles d'ingénieurs de l'armement placées à Brest, l'ANSA, on a
des
commencé à mettre des micros sous l'eau. Et on a instrumenté autour des coquilles Saint-Jacques avec des hydrophones et commencé à prouver qu'on entend très très bien ces animaux. On les entend bouger, on les entend suffoquer quand il n'y a plus d'oxygène et qu'on peut utiliser ce son comme un indicateur de la qualité d'un environnement côtier.
Et c'est ça que vous avez donné aux musiciens.
Et de cette idée simple sur la coquille Saint-Jacques, évidemment, on a étendu vers des grands crustacés, vers des choses qui sont des homards, des araignées, des oursins, des paysages sonores, en essayant de qualifier et utiliser ces paysages sonores, comme on le fait en milieu terrestre, comme des indicateurs de l'état de santé. Et on s'est retrouvé en Antarctique, en Arctique, en Bretagne, avec des sons qui étaient évidemment une source d'inspiration.
C'est des manchots là qu'on entend ?
Je sais pas du tout, il y a des manchots, oui.
Là, c'est juste le bruit de la banquise, voilà.
Là, vous entendez une araignée manger en rade de Brest.
C'est une araignée ?
Une araignée de mer en train de manger,
ouais. Ah oui, donc on est à Brest, là ?
On est à Brest, ouais. D'accord. Donc, évidemment, ça fait partie de cette expo. On voyage entre Brest, les pôles, avec des allers-retours qui correspondent un peu à l'activité récurrente de cette...
Dans la diversité des artistes présents, il y a Sandrine Paumel, qui a son espace, puisque l'atelier des Capucins, cet ancien bâtiment de réparation de bateaux, a été divisé dans des pôles. Donc, son exposition, son espace s'intitule « Pénélope des glaces ». Qui est Sandrine Paumel ?
Elle est plasticienne, elle est venue une nouvelle fois avec comme interface Emmanuel Asquette et elle est venue avec cette idée de peindre quand on était sur la base de Nihalusung en Arctique et il s'est avéré que Sandrine Paumel avait un peu peur de cet environnement et elle a trouvé refuge dans les différentes maisons de cette base et elle s'est comportée comme effectivement, selon son idée,
Une Pénélope. Pas sortie sur la glace,
voilà,
c'est ça ?
Voilà. Et donc ce qui est restitué, c'est ces ambiances solitaires attendant une équipe qui est sous l'eau, sous la glace, en Arctique.
Donc ça commence demain, Sophie ?
Ça commence demain. C'est très impressionnant, tellement c'est foisonnant. C'est très, très beau, évidemment, les paysages sous-marins de l'Arctique. C'est bleu, c'est bon, c'est magnifique. Et il y a ces regards très différents. Donc je vous engage.
À quel endroit, Brest ?
Donc, allez-y.
Au Capucin. Hein, les Capucins, c'est un bâtiment complètement magique.
Un hangar énorme.
Ouais, énorme, ouais, en centre-ville.
Voilà, et c'est donc jusqu'au 22 septembre. Courez-y, c'est tout l'été.
Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant avec une histoire de prune et Marie Treps.
Je cherchais quelques rimes quand elle m'est apparue. Cette beauté qui signe princesse de la rue. Élégante, exotique, sortie des fleurs du mal. Des fumées baudelairiennes, un amour marginal. Juste derrière l'épaule, un tatouage dit. Malheur à qui me frôle, je suis comme je suis. Je suis comme je suis, plaisir à qui me prend. Et dans ce jeu de rôle, je te veux maintenant. L'été, été nu sur la plage. Et cet amour sauvage, profondément marqué. Marqué par un été torride. Septembre semble vide, vide et désespéré. Un été sans sommeil jusqu'à la déchirure. Le ciel noir et la mer à jamais confondus. Je pourrais dessiner toute ta chevelure. Papillons bleus et noirs de tes mèches tordues. Mais la foudre est tombée, j'en garde la brûlure. Et ce poignard de nacre dans la plaie qui me tue. Tes lèvres entr'ouvertes et puis cette blessure. Où l'amour et la mort se mêlent, Sonia d'or. L'été, été nu sur la plage. Et cet amour sauvage, profondément marqué. Marqué par un été torride. Septembre semble vide, vide et désespéré.
Et merci à Thierry Dupin pour cette programmation musicale adaptée à ce 21 juin, puisque c'est aujourd'hui, vous le savez, le premier jour de l'été. C'était Bernard Lavilliers à l'instant.
Le club sur France Inter.
La prune.
Pierre !
Quoi ?
Bravo Pierre, très malin. Il t'appelle la prune. Voilà, t'es content ?
La prune ? Comme une contravention ?
Non. Non, Claude. Comme une reine, Claude.
Voilà, extrait du prénom, ce film d'Alexandre de la Patellière et de Mathieu Delaporte en 2012 et Marie Treps pour nous parler de La Prune, tout simplement. Prune. C'est le titre de ce livre qui sort donc chez Tohubohu dans la collection Fabuleux Fruits. Pourquoi on dit une prune, tiens d'ailleurs, pour la contredanse?
Ah oui, alors quand on ne sait pas trop, on imagine plusieurs histoires, mais le plus vraisemblable, c'est que elle tombe en été sur
le pare-brise,
sur les prés, et elle tombe aussi sur les pare-brises. Ouais. Et ce qui a permis d'arriver aux deux. Entre les deux, c'est l'image des obus et des balles aussi qui tombent pendant la guerre. Et on a appelé le policier un prunier. Et voilà. Ah, oui. Alors on mélange tout ça. De toute façon, il y a aussi de l'imaginaire là-dedans.
Oui.
Mais c'est vrai. Et j'ai eu la chance. Enfin, c'est un hasard. J'étais à Nancy au mois de, je sais plus, dans cet hiver. Et les danséens, enfin, ont fait une publicité, enfin, des affiches pour dire aux gens que une prune, ça peut coûter 80 euros voilà. Quand on oublie de valider son ticket d'autobus.
Exactement. Mais heureusement, ils préfèrent en général la Mirabelle, puisque vous, en tant que
Lorraine. Et là, ils ont pris une couette, qui est plutôt du côté mosellan. Ouais. Et je me suis, il y a tellement de choses derrière un si petit fruit, et aussi des traces de l'histoire et des querelles séculaires, des querelles plutôt gentilles, mais des querelles quand même, entre les deux régions qui sont deux langues différentes, la région mosellane avec Metz et la région lorraine avec un dialecte roman.
Ouais. Alors justement, quand on est linguiste et sémiologue comme vous, comment on aborde une question comme celle d'un fruit? On se dit, ah bon, un livre sur la prune, mais il y a vraiment des choses à en dire, au-delà des recettes, hein, parce que ce n'est pas du tout un livre de recettes.
Comme j'ai abordé, comme quelqu'un de curieux, vraiment. Je me suis beaucoup instruite. Et voilà, et justement, il y a aussi, je suis aussi sémiologue, c'est-à-dire que tout fait signe dans le monde des humains. Et la manière dont on accommode les fruits au Japon, on ne les accommode pas comme ici. Les propriétés thérapeutiques qu'on leur prête, même ces choses aussi... comme disent très précises, et elles sont différentes selon les pays, la manière dont on les accommode, aussi et puis la curiosité aussi de voir les débats qui ont pu s'instituer, ne serait-ce que pour avoir une idée précise de l'implantation de ce fruit, comment il est arrivé jusqu'à nous. Alors, d'un côté, il y a des choses précises. Les botanistes, qui voyagerait en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie, trouverait des pruniers partout. Seulement, les prunes que l'on mange aujourd'hui, elles sont issues du prunier domestiqué, mais il existe à l'état spontané en aucun endroit du monde. Donc on a imaginé qu'il était obtenu par hybridation naturelle de deux espèces sauvages. Alors d'un côté le prunelier, qu'on a toujours chez nous, hein, les petites baies violettes là, qu'on voit en automne, et puis un autre prunier qui s'appelle le prunier mirobolant. Et ceux-là sont présents dans les mêmes régions où on a cultivé depuis très longtemps le prunier pour en faire le prunier domestique. Mais alors, pour le prouver de manière scientifique, ils ont eu recours, les botanistes, à des procédés mathématiques en disant, eh bien, le nombre de chromosomes du domestica est exactement égal à la somme du nombre des chromosomes des deux autres. Bon, alors tout allait bien, dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que certains disent, mais non, le prunier qui est très anciennement cultivé en Chine, ça c'est parfaitement vrai. Alors si on s'appuie sur la linguistique, l'ethnolinguistique, on sait que ça n'est pas possible qu'il soit originaire de là et qu'il se soit répandu via la route de la soie. Parce que la prune en chinois se dit, si on traduit, prune étrangère ou prune européenne. Donc, l'adversaire a mordu la poussière, on en est revenu à la première hypothèse, et on sait que la prune est une beauté rustique venue d'Asie mineure.
Oui, alors c'est ça. Ouais.
Mais il
donc
a
c'est
su,
toute l'histoire des origines, finalement, qu'on arrive à retracer.
Ouais. La légende. Alors la légende, elle apparaît dans les chroniques en 140 du Moyen-Âge. Elle était venue avant, on le sait aussi, parce que c'est les Romains, avec l'expansion romaine, la colonisation, qui l'ont apportée, et qui l'avaient pris, eux, en Syrie, la fameuse prune de Damas. C'est la mère de toutes les prunes, en fait. Et elle a été apportée par les Romains, bien sûr, qui avaient occupé la Syrie, mais on l'avait un peu oubliée au 1er siècle, on l'a oubliée, et dans les chroniques du Moyen-Âge, en 1148, on dit, mais les croisés ont assiégé Damas, et ils sont attaqués par l'Ouest, malins qu'ils étaient, parce que là, il y avait de l'eau et des vergers, de prunes notamment. Et puis, ils ont été obligés de changer de côté, et ils ont perdu, enfin, c'était un échec, c'est d'ailleurs ce qui a marqué la fin des croisades. Ils reviennent en 1149 et ils apportent des prunes. Et puis, un peu plus tard, à la Renaissance, on rapporte cette histoire et on commence à s'en moquer et à inventer l'expression pour des prunes, c'est-à-dire on a fait quelque chose, pas tout à fait pour rien, mais pour pas grand-chose quand
voilà.
même.
Et comment on voyage aussi dans ces expressions? Parce que c'est ce que vous aimez, vous aussi, en tant que linguiste, finalement. C'est toujours le voyage des mots et...
Mais ce que ça dit aussi des mentalités et de... des rapports entre les humains.
Alors, vous disiez tout à l'heure, les quetschs, les prunes, les prunelles, les pruneaux, évidemment, il y en a plein d'espèces, hein. il y en a énormément. Et alors, justement, il y a quelques recettes, hein. On peut prendre la recette, le pruneau des gourmets, par exemple, hein. Vous avez toute la recette avec les pruneaux d'Agen, le thé de Ceylan qu'on laisse macérer, etc., pour obtenir un dessert savoureux. Et la controverse du pruneau, quand même, Marie Trèves.
La controverse du pruneau, bataille.
Bah oui.
Eh ben, ça a commencé de bonne heure, parce que le Marseille, qui était un auteur latin, satirique, se moque un petit peu comme Molière dans Le Malade Imaginaire. Prenez des petits pruneaux pour lâcher le ventre.
Oui.
Ensuite, en Grèce, au 1er siècle, il y a un tenant de cette cette vertu du pruneau. Il s'appelle Galien, c'est un médecin. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Dioscoride et qui pense le contraire. Le pruneau resserre. Et la querelle rebondit à la Renaissance. Nous avons face à face deux médecins italiens réputés, et celui qui l'emporte est celui de la thèse, ça relâche.
Ah, oui.
Mais il s'appelait Mattioli et il était quand même très diplomate, puisqu'il dit les prunes de Damas, toujours elles, lâchent commodément le ventre quand on les mange, mais néanmoins, tout après, elles tiennent le ventre clos et resserré.
Alors, ça relâche ou ça retient finalement le pruneau?
Ben, finalement,
parce qu'on veut savoir, ça sert à quelque chose de bouffer des pruneaux ou pas?
Ben, depuis le bon docteur Carton qui en 1924 a quand même donné la recette du pruneau,
ouais.
Je pense que tout le monde la connaît et on l'utilise encore. Donc
oui, mais enfin, ça ne veut pas dire que ça marche quoi, finalement. Mais...
En même temps, en Chine où on fait le. Au Japon ou en Chine, au Japon où on fait l'umeboshi qui sont.
Ah, ça, c'est épouvantable. Mais,
justement, elles
sont
affreux. Pas séchées.
Elles sont salées.
Elles sont pas séchées, elles sont salées. On les asperge avec de l'alcool de prune.
Ouais.
On les macère dans le sel. On met un petit peu quelque chose du basilic chinois.
Ouais.
Et on les mange. Et là, ça a des propriétés astringentes,
ouais.
Selon eux. Donc, ça resserre. Mais là aussi, les Chinois anciens mettraient tout le monde d'accord, puisqu'ils disent ça rétablit le yin et le yang.
Ah, bah, parfait.
Donc, voilà. Donc,
alors, Serge Brunier s'inquiétait beaucoup de savoir si on parlait de l'alcool de pruneau
ou
de l'alcool
de
prune dans votre livre.
Il y a aussi des souvenirs dans mon prune, dans mon
et
livre.
Et si les brunes comptent pour des
prunes. Ah, bah,
voilà,
aussi.
Bien sûr, il y a ça.
Elles y sont, oui. Mais l'eau de vie de Mirabelle est extraordinaire.
L'eau de vie de Mirabelle, oui. J'ai connu un sourcier qui faisait ça, et j'y raconte ce souvenir dans mon livre,
ouais.
Qui emmenait dans sa brouette, tour à tour, de l'eau de source.
J'imagine Marie-Thérèse dans la brouette du sourcier.
Pour baptiser la prune pour qu'elle ne la fasse passer de 100 degrés à 50. Ouais. Et puis le tonneau de Mirabelle.
C'est votre Madeleine de Proust, hein, vous.
Ah, c'est ma Madeleine de Proust, oui.
Voilà, ça s'appelle La Prune et c'est tout à fait rafraîchissant. C'est plein d'iconographie, beaucoup de tableaux, des choix de recettes aussi, quand même, il y en a un petit peu.
Des citations littéraires qui sont d'autres manières d'illustrer.
Exactement, et toute l'histoire autour de ces différentes espèces de prunes. Merci beaucoup Marie Trepp, ce livre paraît aux éditions Tohubohu. Et Sophie, pour terminer avec l'agenda scientifique du week-end et un peu de l'été aussi, hein.
Oui, ouais. Tout à fait. Francis Blake, directeur des services secrets britanniques, et Philip Mortimer, professeur de physique nucléaire, ça vous dit quelque
Blake
chose?
Blake et Mortimer,
voilà.
Ouais.
Eh bien donc, ils sont l'occasion d'une exposition qui démarre mardi prochain au Musée des Arts et Métiers, puisque leur profession et les planches de BD sont une excellente occasion pour exposer des pièces du musée et des planches, et de montrer en fait les innovations, de parler des innovations qui étaient développées par Edgar Jacobs dans les bandes dessinées.
Mmh.
Voilà, on est en plein merveilleux scientifique. Vous vous souvenez, cette exposition dont on a parlé, qui est encore visible à la BNF. Donc, c'est jusqu'à janvier 2020 au Musée des Arts et Métiers à Paris. Et alors, zoom effectivement sur les pièces de théâtre où on va parler de science ou de scientifique. À Avignon cet été, cette édition 2019 est très riche. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller de retourner voir ou d'aller voir L'Équation de et par Fabio Alessandrini, ce comédien que nous avions reçu ici, qui relate en fait le voyage de 13 milliards d'années depuis la naissance de l'univers jusqu'à aujourd'hui, nous, notre place. Donc, c'est du 5 au 28 juillet dans le Off.
Ouais.
Également dans le Off, Galilée le mécano, avec le formidable comédien Jean Alibert, La vie de Galilée, du 6 au 26 juillet. Binôme, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Mathieu, du 10 au 19 juillet.
C'est
le principe. Non, c'est imaginé par Thibaut Rossigneux et ça consiste à marier un scientifique et un auteur. L'auteur a un temps très très court pour comprendre ce que fait le scientifique qu'il ne choisit pas en face de lui, s'approprier son vocabulaire, sa thématique, sa démarche. Il doit écrire un texte qui est ensuite joué au théâtre. C'est très très riche et c'est très intéressant. Donc ce sera, je crois qu'il y en a près d'une dizaine cet été à Avignon, c'est à 17h30.
Une dernière info, très vite.
Émilie du Châtelet et Voltaire avant Beauvoir et Sartre, c'est le titre d'une pièce qui fait revivre la marquise, puisque Émilie du Châtelet n'a pas seulement été la femme de Voltaire, mais aussi d'abord son alter ego et une physicienne traduit tout Newton en français. Voilà, du 5 au 28 juillet à Avignon, toujours au théâtre de la Carreterie à 19h15.
Et l'agenda, vous nous l'offrez également sur
le site internet.
Merci beaucoup Sophie Béchera, merci beaucoup à toutes et à tous, passez un très bon week-end. Ainsi s'achève ce club et merci à Kevin Pelot qui était aujourd'hui à la technique.